Le jour d'après, c'est le podcast qui libère la parole. Chères auditrices, chers auditeurs, vous allez écouter la partie 1 de l'épisode 4, deuxième saison. Cet épisode 4 évoque le harcèlement scolaire, les troubles mentaux, les tentatives de suicide et le mal-être chez les adolescents. Selon une enquête IFOP, en 2023, un élève sur 5 aurait subi du harcèlement scolaire. 53% au collège, 28% en primaire, 6% au lycée et 13% à plusieurs moments de sa scolarité. Le harcèlement scolaire se caractérise par des moqueries, des insultes, le rejet, l'isolement, jusqu'à la violence physique. Parfois, ce harcèlement pousse à une phobie scolaire, un mal-être physique et mental, jusqu'aux tentatives de suicide de nos enfants. Souvent, l'élève harcelé se tait. En tant que parents, nous devons redoubler de vigilance, être à l'affût des changements d'humeur, d'agressivité, de repli sur soi, d'automutilation. Surveillez aussi les réseaux sociaux qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. S'il est compliqué pour vous d'en parler à l'équipe pédagogique de votre établissement ou à vos proches, ne restez pas seul. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, contactez le 30 18. À la fin de l'année 2020, les tentatives de suicide ont augmenté de 28%, surtout chez les filles. Un constat alarmant d'une détresse de nos jeunes. Il est important d'être à l'écoute de leurs craintes et leurs angoisses. De prendre le temps avec nos enfants, d'installer le dialogue pour libérer la parole. Au moindre signe, consultez, allez aux urgences ou contactez le 3114. Chaque histoire est différente, mais la vôtre et celle de vos proches sont importantes. Sortez de votre isolement. Le jour d'après est une fiction inspirée de faits réels. Place à l'écoute, épisode 4, partie 1, le carnet bleu. Des larmes, des cris et des portes qui claquent. L'historie étouffe l'espace de ce dimanche qui a basculé d'une seconde à l'autre. Son visage est déformé par la douleur et change de couleur, devient rouge écarlate. Son mascara mélangé à ses larmes ruisselle sur ses joues, créant un masque sombre et inquiétant qui me fixe. La tension monte. Sa rage est ingérable. Elle, si belle, devient une autre, primitive, sauvage, inatteignable. Elle s'enferme dans la salle de bain. Son beau-père prend le relais, car je pense que je suis le problème, qu'elle ne se calmera pas avec mes mots. Qu'elle ne voudra pas de mon odeur, ni de mes bras. Je panique de la savoir enfermée. J'ai peur qu'elle se fasse du mal. Je demande à son beau-père de défoncer la porte. Lui reste calme. Il s'installe et il s'assied contre la porte et avec beaucoup de patience et d'humour, les esprits s'apaisent. Enfin, c'est ce que nous croyons. Le calme est revenu, mais avant la tempête. Salomé lui demande un verre d'eau après être sorti de sa chambre. Il me dira plus tard que ce verre d'eau, c'était comme donner une corde à quelqu'un qui allait se pendre. Il l'a mal vécu. Elle s'assoit à la table familiale et nous observe en silence. Elle part doucement dans sa chambre, sans crier, sans larmes, sans claquer les portes. Mon instinct de mère me fait me lever, ouvrir sa porte, m'asseoir auprès d'elle sur son lit et la prendre dans les bras. Pour savourer ce calme revenu, sentir son odeur apaisée, déposer un baiser sur son front. Elle me rend ma tendresse, me serre fort et entre deux sanglots cette phrase qui résonne.
« Maman, je suis désolée. Je crois qu'il faut qu'on aille à l'hôpital. »
Mon regard se tourne vers sa table de chevet et je découvre une dizaine de plaquettes de médicaments, vides. Un an plus tôt. En déposant le carnet bleu sur son oreiller, j'avais inscrit ma toute première question. Cette question qui débloquera les mots, les émotions, les non-dits. De longs échanges parfois difficiles mais nécessaires. Que penses-tu de ce carnet bleu, échange entre mère et fille après des années et des moments difficiles? J'ai attendu qu'elle me réponde, comme une enfant, entre la peur du rejet de l'ado, qui trouve tout nul quand ça vient de l'extraterrestre adulte, et l'impatience qu'elle m'ouvre son cœur. Et un soir, sous mon oreiller, j'ai senti la partie dure de la couverture du carnet. Elle acceptait l'échange, l'ouverture à l'autre, moi, sa mère.
C'est intéressant de revenir sur des moments de vie qu'on a vécu ensemble, dont on n'avait pas parlé sur le moment. Un an et demi après, on va s'écrire ce qu'on ressentait à l'époque.
À la lecture de ce premier échange, je sens l'ouverture par le mot « intéressant ». Et aussi peut-être le regret que l'on n'ait pas dialogué plus tôt. Je lui pose la question. Aurais-tu aimé que ce carnet bleu existe plus tôt? Trouves-tu que c'est trop tard? Trop tard.
Non, en fait, je n'aurais pas eu le même recul sur les événements qu'aujourd'hui.
J'affronte le sujet principal directement. Ne perdons plus de temps sur les peurs, les doutes, les angoisses d'une enfant qui apprend que sa mère a un cancer. Comment as-tu vécu l'annonce du cancer? De savoir que dans le corps de ta mère, il y avait une tumeur cancéreuse. Le dialogue est lancé et sa réponse est rapide. Au ligne qu'elle m'écrit, je vois qu'elle déborde, qu'elle va au-delà de la question posée. Je sens qu'elle a besoin de parler.
Assez bizarrement, on en avait déjà un peu parlé, donc je m'en doutais un peu, mais le nom tumeur fait un plus gros choc que cancer. Tumeur. On dirait que ça va décrire son avenir. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais j'étais inquiète. Tu racontes beaucoup que, juste après, je suis partie rigoler dans ma chambre avec mes amis. Mais je n'en ai aucun souvenir. Je me souviens avoir beaucoup pleuré. Beaucoup. Beaucoup. J'avais un œil d'enfant, donc je ne comprenais pas encore très bien les conséquences que ça avait. Je ne sais même pas si je le sais maintenant.
Je me rappelle avoir écrit tout de suite après l'annonce à mes proches les réactions de chacun. Je me souviens que mon monde s'était écroulé. Et je voulais que tout le monde s'écroule, égoïstement. Mais la vie a continué pour l'entourage. Chez moi, et dehors même. Aujourd'hui, avec du recul, je le comprends. Mais à l'époque, je me suis sentie vraiment seule. Quand j'avais fait ma mammographie et ensuite ma biopsie, j'avais tout expliqué à ma fille, afin de la préparer à cette éventualité. Je le sentais déjà en moi qu'il n'y aurait pas d'option bénigne de ce qui se logeait dans mon sein. Tu avais effectivement des yeux d'enfant, recevant une nouvelle plutôt dramatique. Il était normal que tu ne comprennes pas tout à fait l'importance de la situation. À la suite de cette annonce, as-tu eu peur de perdre ta maman ? Je m'aperçois tout de suite en écrivant la question que je prends de nouveau de la distance avec la personne qui a été malade. As-tu eu peur de perdre ta maman ? Comment as-tu vécu l'annonce du cancer ? Comme si la maman de Salomé avait été une autre. Comme si le cancer n'avait pas été le mien. Je n'ai pas posé la question « As-tu eu peur de me perdre ?» ou l'annonce de mon cancer. Cela m'aurait trop investi. Et je n'étais toujours pas prête à l'être. Se dissocier lorsque je vis des moments hors normes est assez courant. Et cela m'a toujours permis d'affronter en silence.
Dans l'instant, je n'avais pas peur de te perdre. J'ai eu peur pendant l'opération. Un mercredi, si je me souviens bien. Et j'avais peur des 5-10 ans après. Que ça revienne en pire.
Ma mère m'avait effectivement dit que Salomé exprimait son inquiétude concernant l'opération. La peur que sa maman ne se réveille pas de l'anesthésie. J'ai trouvé l'information normale à l'époque. J'aurais eu les mêmes pensées. Mais est-ce vraiment normal, à cet âge-là, de vivre cette peur de perdre sa maman lors d'une opération ? Ou de vivre en pensant que la maladie peut revenir et en pire ? Ce sont des épreuves de vie qui forgent certains, comme on dit, ou qui fragilisent d'autres. Je me rappelle de la date, le 5 février 2020, mais je n'ai aucun souvenir du jour de la semaine. Les jours étaient tous les mêmes à cette époque de ma vie. Ils se ressemblaient tous. Je ne ressentais pas le refuge du week-end ou l'angoisse du dimanche soir. Je n'aimais aucun jour de la semaine. As-tu fait des recherches sur le cancer du sein ou sur le fameux mot qui fait peur, tumeur ?
Non, je n'ai fait aucune recherche.
En lisant cette réponse, j'ai pensé qu'elle s'était protégée. Internet est l'outil préféré des jeunes et pourtant il n'a pas été son allié à ce moment. Elle a bien fait, car moi Google est devenu mon meilleur ennemi. En as-tu parlé immédiatement à des amis ou famille ? As-tu trouvé du réconfort quelque part ?
Oui, j'en ai parlé à des amis, qui n'ont trouvé qu'à me dire des trucs du genre. La copine de ma tata en a eu un aussi. Je m'en foutais. Non, je n'ai eu aucun réconfort, avec personne et nulle part. Finalement, je me suis sentie très seule.
Ah, les amis qui racontent que leurs sœurs, leurs tantes, leurs copains ont eu la même chose. Je l'ai tellement vécu. Et oui, on s'en fout. Cela banalise ce que l'on vit. Ou nous angoisse encore plus. Chaque histoire est différente, et il faut être accompagné dans notre histoire personnelle. Pas vivre le cancer, par procuration d'un autre ou d'une inconnue. Et finalement, je me suis sentie très seule au début de ma maladie. Je sais aujourd'hui que pour toi, à cette même période, tu as vécu un autre traumatisme. D'où le fait que tu n'as pas pu trouver du réconfort, être aidée, comprise, ou même te changer les idées avec des choses de ton âge plus légères. Tu veux bien m'en parler ? J'ai su bien plus tard que cette période a été un tournant, que tout a basculé dans la tête de mon enfant.
Oui, le confinement. J'ai extrêmement mal vécu cette période. Pourtant, ce n'est pas le fait de rester enfermé le problème. Je pouvais sortir, mais je ne voulais pas. Je suis une nature casanière. Je n'avais pas peur du virus non plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est difficile à expliquer, trouver les mots. Je pense que j'ai fait une dépression à cette période. Je pleurais encore et encore. Et je n'avais le goût de rien. J'ai toujours été studieuse dans mon travail. Mais là, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à sortir de mon lit. Je ne dormais pourtant pas. J'ai même fait mes premières nuits blanches. Vers 2h du matin, j'étais dans le salon ou même parfois dans ta chambre pour prendre ton ordinateur. Et jusqu'à 8h, je regardais des séries. Vers 8h30, mon père se levait et je me suis jamais fait cramer. Je me suis aussi renfermée sur les réseaux sociaux. Je me suis créé un faux personnage qui ne montrait pas de photos de soi. Juste des caractères que j'aimais pour faire des histoires. Cette communauté m'aidait. Elle me parlait de leurs problèmes, mais je ne parlais pas des miens. Ça m'a permis de penser à autre chose. Mais finalement, ça ne m'a pas aidé assez et je me suis renfermée sur moi-même. J'ai ressenti une grande solitude. J'ai tenté de me suicider. C'était égoïste, mais à ce moment-là, je n'avais pas la conscience de ce que le cancer pouvait faire. Donc j'avais l'impression que mes problèmes étaient plus graves. Pardon.
Il y a le mot suicide et le mot pardon qui cognent dans mes tempes, qui flashent dans ma rétine. Je n'ai rien vu, rien compris. C'est moi qui dois lui demander pardon. Il y a beaucoup d'informations dans ta réponse. Je vais reprendre par petits bouts et te poser des questions pour que tu m'expliques. Déjà, je me rappelle qu'à l'époque, tu ne voulais pas sortir parce que tu avais peur d'avoir le Covid et de me contaminer. Tu te souviens ? Alors, pour que tu prennes l'air, je t'imposais d'aller sur le terre-plein devant nos fenêtres où nous étions les seuls à y avoir accès.
Oui, je m'en souviens. Mais malheureusement, c'était un prétexte. Je n'avais le goût de rien.
Je suis étonnée de cette réponse. J'avais pris cet acte de protection comme un acte d'amour d'un enfant à sa maman, qui m'avait fait énormément culpabiliser d'être malade et d'inquiéter ma fille. Et à la fois, je suis rassurée de ne pas lui avoir transmis une angoisse de virus ou de mort. Tu étais effectivement décalée, mais je pense que c'était le cas de beaucoup de monde. Il n'y avait plus tellement de repères et nous vivions une situation inédite. Comment se passait le confinement de tes amis ?
J'avais deux amies. Louison l'a très bien vécu et Emilia s'enfermait chez elle. Elle ne l'a pas si mal vécu que ça, puisqu'elle avait une addiction à son téléphone et n'aimait pas l'école.
Je ne savais pas que Salomé avait si peu d'amis. J'avais l'impression qu'elle avait tout un groupe autour d'elle. Quel était ce réseau social ? Comment l'avais-tu découvert et décris-moi ton personnage.
Le réseau était Instagram, avec des personnages venant d'une application, Gacha Life. Je l'avais découvert par mon amie, Emilia. Mon personnage me ressemblait physiquement et le caractère, c'était vraiment moi. Sans avoir besoin de me cacher. Cela m'a permis d'assumer des choses qui étaient tabous. Je parlais avec plein de gens, même des Anglais. J'ai aussi créé des tenues à mes personnages. Je leur inventais des histoires. Cela me permettait de m'exprimer, sans jugement, comme un journal intime, mais public.
J'avais effectivement découvert que Salomé avait ce compte et je lui avais interdit. Le fait qu'elle soit en public et qu'elle parle à des inconnus me faisait très peur, encore plus à son âge naïf. J'ai beau lui parler des faux profils, de ces hommes pédophiles qui se cachent et sont adeptes d'Instagram, TikTok et Snap. J'ai beau la mettre en garde depuis de longues années. Nos enfants ne sont pas armés face à cette industrie, ce fléau qui s'invite dans leur intimité. Dès que quelqu'un leur montre de l'intérêt, les flatte, ils tombent souvent dans le piège. Je n'avais que ce recours de lui interdire, de la surveiller. Enfiler ma casquette de brigade anti-pervers. Tu me parles de suicide. Comment as-tu procédé ? Penses-tu m'avoir donné des indices, alertes, pour que je voie ta détresse ?
J'ai essayé de me pendre, avec un foulard accroché à une poignée de placard. Mais mes pieds touchaient le sol, alors je devais les soulever. Mais l'instinct de survie a parlé. Avec mon père, vous vous engueuliez tout le temps. Et pour ne plus vous entendre, j'allais sur le terre-plein qui donnait dans le vide. Une fois, je me suis penchée. J'ai voulu sauter. Mais il y avait meilleure mort que s'écraser devant le parking au milieu des poubelles d'un supermarché. J'étais suicidaire de nature, donc les signes étaient présents. J'avais déjà été convoquée au collège pour ça. Quand j'étais en maternelle, à table, je t'avais dit que j'avais envie de mourir. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu m'avais disputée.
Je ne sais pas comment vous vous sentez en entendant les mots d'un enfant qui souffre, mais moi c'est ma chair, mon sang, et cela me brise. Je suis en colère, pas contre elle, mais contre moi. Je n'ai pas su la protéger. Le suicide est pour moi un sujet qui me ronge. Ma meilleure amie avait sauté du 6e étage. Je dis qu'elle s'est suicidée, pas qu'elle a fait une tentative. Parce que sauter du 6e, ce n'est pas un appel, c'est radical. Elle est en vie, elle est miraculée, mais moi je m'en suis jamais remise. Il y avait aussi mon super pote de dernière année de lycée, mon binôme, qui s'était déscolarisé avant l'examen final. Il avait réussi, lui, la veille du bac, à passer de l'autre côté. En laissant les gens qui l'aimaient anéantis. J'ai beaucoup de mal à lire et à déglutir les mots que tu écris. Je te remercie déjà pour ta confiance. Je pense que pour toi, l'exercice n'est pas facile, parce que comme tu dis, je suis très hermétique à la pensée du suicide. Nous avons chacun nos failles, nos peurs. Ma peur primale est l'abandon depuis toute petite. Cela peut créer chez moi un sentiment de vide intense et je me sens désemparée. Je t'ai disputée car tu as voulu partir et me quitter. Quitter la vie que je t'offre, que je t'ai donnée. Je suis ta maman et rien que l'idée de te perdre m'est insoutenable, inimaginable. Et je ne veux pas être dans cette réalité. L'amour que je ressens pour toi est un amour dévoué, un amour infini, un amour protecteur, inquiet, un amour non serein. Tu es mon plus grand amour, celui pour qui je donnerai ma vie. J'ai la responsabilité d'être ta maman et de t'ouvrir au monde. Je ne t'ai jamais dit que la vie allait être facile. Je ne t'ai jamais fait vivre en dehors de la réalité. Mais je t'ai protégée au mieux que j'ai pu au sein du foyer et pendant mon cancer. Je t'ai parlé, j'ai été transparente pendant la maladie, mais en gardant le sourire et la dynamique de ma personnalité. Tu ne me vois pas pleurer, par pudeur, et parce que je veux que tu me vois forte. Parce que la vie est dure, mais rien n'est insurmontable. À part la mort de son enfant. Tes problèmes étaient et sont importants, pour toi, pour ton âge. On ne peut pas comprendre un cancer tant qu'on ne le vit pas soi-même. Tu sais, je n'ai pas été là pour ma maman. Aussi parce que j'ai voulu me protéger. Mais c'était profondément égoïste. Et j'étais plus âgée que toi. Ne me demande pas pardon. Les larmes coulent. C'est à moi de te demander pardon. Et ne pas avoir vu. De ne pas avoir compris. Épisode joué par Nora dans le rôle de Salomé et Karina B dans le rôle de Catel. Écrit et imaginé par Nora et Karina B. Produit par l'association Demain. La suite de ton podcast le jour d'après sortira dans quelques jours. Encore un peu de patience.